Bonjour à toutes et bonjour à tous. Toute cette semaine dans Les Pieds sur Terre, quartier d'été, c'est l'été de Lydie, un feuilleton de Marie Desplechin, Lydie Violet et Annabelle Brouard. Les Pieds sur Terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Attends, tu vas voir. Donc ça charge.
Mais c'est comme chez Ikea, il faut la monter soi-même ou...
Non, c'est déjà monté là, c'est tout propre. Alors, chambre de culture complète. Je vends une chambre de culture comprenant une super box Millar, 1 mètre par 1 mètre par 2 mètres, un réflecteur, humidificateur, valeur du neuf, environ 1000 euros, j'en veux 500. J'offre en cadeau billes d'argile, engrais, lampe, pourquoi pas après tout. 400 watts. 400 watts, ça lui coûte 40 euros par mois.
Chez EDF, ils vont pas flipper quand ils vont voir qu'elle a augmenté de 400 watts tous les mois.
Non, 40 euros. 40 euros, ouais. c'est pas la folie. Hein.
Elle veut dire qu'elle utilise la chambre d'amis.
Ouais.
Sans préciser.
Elle a rien à dire. À mon avis, tu sais, personne ne lui demandera quoi que ce soit. Si en plus la récolte est bonne et qu'elle lui permet d'aller au-delà de sa propre conso, tant mieux.
C'est bon, tu fais un centre de coût, ça devient un centre de profit, quoi.
Mais ça, tu tombes sous le coup de la loi.
Je pense qu'ils auront d'autres trucs à régler, puis de toute façon, elle peut pas aller en prison, elle est trop malade.
Ouais.
C'est vrai en plus.
Ouais.
Un procès pourrait l'occuper un petit peu. En fait, ça pourrait être marrant. On lui monte la chambre de culture et on la balance.
C'est l'histoire de Lydie, racontée par Marie. Lydie, attachée de presse de son métier, apprenait il y a 12 ans de cela qu'elle était atteinte d'une maladie encore mal connue, mais incurable, lui laissant une espérance de vie de 8 ans. 8 ans qui devinrent bientôt 9, puis 10, puis 11, puis 12, durant lesquels Lydie s'est employée à réinventer la vie. C'est l'histoire de Lydie et de cet été 2013, 12 ans plus tard, au cours duquel elle doit se résoudre à accepter une radiothérapie qu'elle avait toujours refusée jusque-là. Un été, l'été de Lydie, dont nous racontons aujourd'hui quelques fameuses batailles contre la sécurité sociale, comme d'habitude, contre la législation relative à la consommation de cannabis, contre la maladie, bien sûr. Heureusement, pour mener ces combats, Lydie est entourée d'une troupe de fidèles soldats qui vont au front quand il le faut. Marie, qui, quand elle ne raconte pas l'histoire de Lydie, s'insurge en général, cuisine en particulier et fournit baume pour le corps et le cœur, crèmes et conseils tendrement amicaux. Marie Séverine et Julien, qui se démènent avec les papiers, conduisent, rigolent et sont là exactement quand il le faut. Enfin, une créature céleste que nous rencontrons aujourd'hui pour la première fois, danseur indien et infirmier à la Pitié-Salpêtrière. J'oubliais en guest star de ce troisième épisode de l'été de Lydie, une certaine Raphaël. Aujourd'hui jusqu'à 15h dans Les Pieds sur Terre, quartier d'été, un reportage de Marie Desplechin et Lydie Violet, réalisé par Annabelle Brouard.
Là, j'ai fait le plus gros, il reste plus que 10 jours. Enfin, les 10 derniers jours, les plus difficiles, mais.
Non, il te reste moins que 10 jours. Attends, on est le combien ?
Nous sommes mi-juin. Lydie a fait plus de la moitié des séances. Après avoir compté les jours, nous les décomptons, en route vers la fin du traitement.
Alors, ça, c'est sur ce banc-là ?
Ouais, ça, c'est le banc d'attente. C'est vraiment le banc.
Elle n'a jamais porté la perruque blonde à cheveux raides qui devait venger toute une vie de cheveux frisés. C'est un défilé de turbans, de casquettes et de chapeaux qu'elle a sortis et qui lui vont somme toute très bien.
La pharmacie, il y a le resto où on peut manger, sont très sympas. Il y a toujours dans chaque quartier où je vais faire des examens ou l'hôpital, après on trouve le petit resto, le petit café où on s'habitue, on prend ses petites habitudes, quoi.
Parmi les effets secondaires qu'elle redoutait et dont elle nous avait plus ou moins menacés, la perte de la parole et du mouvement étant les plus cruels, seule la fatigue est au rendez-vous. Pour le reste, Lydie est un gambe et pas moins bavarde, même si elle prétend que son débit a ralenti. Pour autant que les choses puissent aller bien, il nous semble qu'elles vont plutôt bien.
Je ne sais pas pourquoi je me sens si forte et que je crois que voilà, j'ai gagné du temps. J'en suis à peu près persuadée. Mais je crois que c'est tous les autres qui me persuadent. Ouais, ça aide certainement. Hein.
Il est vrai aussi que Lydie a une forme de pudeur ou d'élégance qui veut qu'elle ne nous parle jamais de ses douleurs ni de sa peur. Je pense qu'elle s'arrange de la seconde et qu'elle tait les premières. Ce sont des domaines auxquels on ne peut pas grand-chose et contre lesquels la révolte n'agit pas. Il en est d'autres, des domaines, qui méritent en revanche qu'on y revienne et qu'on s'y attarde. La sécu, par exemple, à la sécu.
Alors attends, je cherche tous les résultats.
Voilà des mois qu'elle a mélangé ses dossiers, confondant le dossier de Lydie et celui de sa fille, attribuant à l'une l'invalidité de l'autre et à l'autre le 100% de l'une.
Ça, c'est très, 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 très bizarre.
Et, alors qu'elles habitent Gentilly, elle les a déménagées à Rungis.
Attends, faut que j'aille rechercher les papiers.
Rien n'y a fait, ni les lettres, ni les appels téléphoniques. L'accueil est même parfois courtois, voire désolé, mais chaque nouveau document confirme les erreurs.
Tu vois, y a tout ça.
Lydie se retrouve à devoir payer des factures dont elle devrait être dispensée. C'est épuisant et ça ruine aussi le moral.
Je sais pas ce que c'est tout ça, je te jure quoi.
Aujourd'hui, elle a rendez-vous à la Pitié avec l'assistante sociale du service. Elle en est venue à redouter ses rendez-vous plus que des examens. Aussi, elle a demandé à Marie-Séverine et Julien d'assister avec elle à l'entrevue. Je devais les rejoindre, mais je suis en retard. Quand j'arrive dans le service, je trouve Lydie en larmes dans le couloir.
Qu'est-ce qui se passe ?
Je sors du service social, et là, c'est vraiment difficile pour moi, parce que ça paraît incompréhensible de vivre ce genre de choses, quoi. Je suis obligée de rechercher des papiers. Quand date ma maladie, quand j'ai demandé mon 100%, quand je l'ai renouvelé, pourquoi il y a eu un bug et à quelle date exacte a eu le bug sur mon dossier sécurité sociale qui fait que je suis plus à 100% pour mon affection maladie. Enfin, c'est-à-dire comme j'ai 12 ans de maladie, le système a changé depuis. Avant, les papiers, c'était les neurologues qui les faisaient. Maintenant, c'est les médecins traitants. Donc, voilà, tout se complique et j'ai un bug et on n'arrive pas à réparer le bug. Donc ma maladie daterait seulement d'hier, du 5 avril. Les 10 autres années, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je devrais aller faire toutes les caisses de mes maladies, de mes chimios, et retrouver tous les papiers, peut-être sur 12 ans de maladie, pour expliquer que, ben non, je suis toujours malade.
Et l'assistante sociale, elle est comment ?
Elle est pète sec. Et elle a réussi à me faire pleurer quand même, donc c'est pas très cool. Moi, je me sens pas la capacité, quoi. J'ai pas la capacité pour gérer ça, quoi. Je me sens trop fragile. Les papiers, ça me paraît rien. Enfin, déjà, tout paraît plus rien. Quand tu vis ce que tu vis, t'essayes d'être forte et te battre. Alors, s'il faut te battre avec l'administration, là, j'aurai pas la force. Elles ne se rendent pas compte, c'est énorme. 36 chimios, c'est des classeurs entiers, les documents, les résumés, les IRM, enfin tout ça, c'est énorme, c'est de la paperasse, c'est gigantisme. Ma maladie, elle ne s'est pas arrêtée du jour au lendemain et a repris, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Alors heureusement, mon équipe de secours est arrivée. Je l'ai laissée avec Marie-Sève et Juju, qui sont... les gens les plus formidables qui puissent sur les papiers et l'administratif contrecarrer tout ça, je pense, et m'aider, quoi. Ça me fait trop drôle parce qu'elle a totalement... elle a été super agressive avec Marie-Séverine quand elle est entrée sur qui était cette personne, quoi. Parce que c'est une personne qui est plus stable que moi, qui n'est pas en fragilité, qui est forte. Enfin, voilà, qui a les capacités que j'ai pas en ce moment. Ne me faites pas affronter ces problèmes de paperasse, quoi. Pas ça.
On t'a récupéré un 400%. Un 400%.
Et en plus, t'as gagné un iPad.
Elle est bête.
Ah, on est de bons négociateurs, c'est oui. Bon. On s'en est bien sortis.
Ils sont forts, hein.
Et en vrai, vous avez obtenu quoi ?
Mais on a la solution, c'est déjà ça.
C'est quoi la solution ?
Donc, la vérité, c'est qu'en fait, ton 100%, il s'est arrêté en 2008.
Ils sont malades, ils ont continué à me faire des chimiques.
Non, parce qu'en fait, ça passait sur ton invalidité. Et non pas sur ton cancer. Du coup, tes dernières chimios, elles n'avaient pas la vignette orange, verte, jaune, bleue ou ce que
orange
tu veux.
Et
du coup, tu te retrouves en fait en arrêt de 100% depuis 2008. Donc ça c'est réglé. Il faut juste par contre que tu nous redonnes toutes tes factures.
Des factures de quoi ?
Depuis janvier.
Toutes celles que tu as payées toi-même. Donc les tacos, les médicaments, enfin toutes les factures qui te sont restées sur les bras.
La drogue, les mecs, tout ça. T'as demandé des factures ?
Mais les factures, le problème c'est que je suis allée en déposer dans un service ici où on m'a dit d'aller à l'administration qu'eux ils allaient régler le problème. Donc je leur ai déposé.
Donc il faut qu'on les récupère.
Je vais chercher des cafés. Je peux y aller, hein, pour rester au soleil. Hein.
Tu veux y aller ? Tu veux rester sur le banc ?
Tu gardes le banc ?
Tu gardes le banc ?
Pour la sécu, c'est momentanément réglé, mais il y a d'autres chevaux de bataille. Parmi eux, la législation du cannabis. Quand de nombreux pays ont légalisé sa production, sa vente et sa consommation pour les malades, en France, on se tâte. On attend de voir, on laisse traîner. On préfère commercialiser les batteries de médicaments produits par les laboratoires, à commencer par les antidépresseurs, qui ne sont pas moins dangereux ni pas moins addictifs que l'herbe. On peut se procurer dans les pharmacies d'hôpital une quantité de drogue, mais pas celle-là. Je vais te demander, est-ce que toi tu fumais de l'herbe avant ta maladie ?
C'est-à-dire j'en ai fumé, oui, mais j'ai pas régulièrement, non. C'était, voilà, occasionnellement. C'est comme on boit un bon verre de vin, voilà, mais c'est tout, c'est pas... Non, je fumais pas du tout quand je travaillais.
Donc ça a été vraiment thérapeutique.
Comme j'avais une connaissance de l'herbe et des effets, je l'ai utilisé effectivement en thérapie.
Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'autour de toi, on fume pas, nous. C'est vraiment la pratique médicale, là.
Oui, c'est de la pratique médicale. Et j'ai surtout beaucoup, beaucoup fumé quand j'étais en chimio. Aujourd'hui, c'est pas du tout le même rapport. C'est plus le soir, comme une détente pour décompresser, etc. Mais pas la journée.
Et toi, tu dis que les médecins, mais tous ceux que tu as rencontrés, aucun t'a dit « arrêtez madame, c'est pas bien ».
Non, aucun. Aucun. Jamais. J'ai demandé, hein, même une fois, « est-ce qu'il faut que j'arrête ?» Et on m'a dit non.
Dès les débuts de sa maladie, Lydie s'est méfiée des antidépresseurs. Elle n'est pas sujette à la mélancolie. Elle a choisi l'herbe, qui apaise, qui ouvre l'appétit et qui soigne les nausées. Autant d'économies pour la sécu, pour elle, autant de risques et autant d'enquiquinements.
J'ai eu recours aux antidépresseurs de manière tout à fait occasionnelle, quand j'ai fait des grosses rechutes et que j'allais vraiment pas bien. Mais ça a toujours été pour moi très très clair que ça devait être que sur un temps déterminé.
Tu dirais combien de jours par exemple ?
Le problème des traitements antidépresseurs, ça sert à rien de les prendre sur une semaine, ça n'a aucun effet. Il faut au moins les prendre sur 2-3 mois et après arrêter et arrêter. En règle générale, je ne prenais que la moitié de la dose que me prescrivait le médecin. Et ça fonctionnait très bien. Ça me permettait de passer un cap difficile. Parce que c'est vrai qu'on a des caps très difficiles. Et en plus, l'idée, c'est toujours de se dire, bon, de toute manière, c'est une maladie incurable. Donc, sinon, ça veut dire qu'on va passer sa vie à prendre des antidépresseurs. Et ça, je ne suis pas pour, du tout.
Les pieds sur terre, quartier d'été.
C'est un sujet et même une préoccupation qui revient sans arrêt dans nos conversations. Il est en retard, hein ?
Oui.
Première fois qu'il est en retard.
À la maison et à l'hôpital.
Non, parce que je crois qu'ils ont pris l'autre monsieur qui s'énervait, là, avant. Ah, il est parti ?
Ouais.
Il a dit, je vais fumer mon pétard dehors.
Justement.
Alors, je voulais vous demander votre avis, puisque je pensais peut-être réessayer un colocataire.
Quelle bonne idée !
Oh non, Lydie, pas de colocataire.
Non ?
Ah non, c'est une très mauvaise idée.
Bah oui, mais ça fait rentrer des sous. Hein. Mais c'est pour tous les mois être un peu plus à l'aise et tu vois, c'est trop dur là avec.
Alors prends un étudiant ou une étudiante timide.
Oui, mais un étudiant, il a les APL, faut que je déclare et c'est pas possible. Bon. Ça serait bien parce que moi, ça me permet d'avoir un petit peu plus de sous tous les mois.
Au lieu de mettre une Ukrainienne dans la chambre, tu mets des plombs.
tu vois.
Oui, elle va aller en prison.
Mais non, c'est pour sa consommation personnelle.
Non, tu vas en tôle.
Mais sinon, t'achètes un truc de luminothérapie, là.
Oui, mais ça, ça m'aidera pas financièrement, parce que moi, je vais la fumer, mon herbe. Tu vois ce que je veux dire?
Mais déjà, c'est t'auras, un gain, t'auras tu la dépenseras
plus. Bah oui, j'ai fait calcul, c'est 200 euros par mois que ça me coûte.
Bah,
déjà, tu gagnes 200 euros par mois.
Gratuit.
Je sais pas quelle solution trouver. C'est... Oui.
Puis il y a Lambert Vadraud, qui est infirmier et qui exerce dans la jolie petite maison des soins palliatifs à deux pas du service du professeur Mazeron.
Soufflez doucement. Allez, on reprend. 1, 2, 3, 4. Voilà, on change de sens maintenant. Ça craque, c'est très bien.
Oui, ça craque.
Lambert Vadraud pratique différentes disciplines, parmi lesquelles l'hypnose.
Alors, comment vous vous sentez ?
C'est un homme doux et lumineux, un danseur aussi, dont Lydie tombe raide dingue dès leur première rencontre.
C'est Sora. C'est l'endroit où on est en paix ici. On ne nous donne pas de médicaments, on ne nous fait pas de vacheries.
C'est vous qui faites tout le travail.
Ah oui, non, je ne crois pas que ça se passe comme ça, moi. Là, vous exagérez. Vous...
Je vous accompagne, mais vous faites tout le travail pour retrouver cette détente.
Ce qui est totalement réel, puisque, en fait, je ne prends plus aucun médicament en dehors de mes antiépileptiques. Donc, je veux dire, tout le confort que pourrait m'amener un antidépresseur, un endormisseur, tout ça, je n'en ai pas besoin parce que je fais un travail avec vous qui me permet d'assurer tout ça toute seule par le biais de tout ce que j'apprends, quoi, avec vous.
Donc. Et aussi, l'objectif aussi, c'est ça, voilà. Améliorer le confort, la qualité de vie des patients. Et c'est dans cette optique, dans cette dimension que nous, on déploie, enfin, on réfléchit quand même par équipe. Par exemple, avant de vous proposer quelque chose, moi, je parle à l'équipe, je demande aussi leur avis. Et le but, ce n'est pas comment ça s'appelle,
de généraliser pour tout le monde,
de étouffer le patient avec toutes ces techniques. Imaginez en oncologie un patient qui est fatigué, l'art thérapeute qui passe, masseuse qui passe, kiné qui passe. À un moment donné, le patient, il dit stop.
Oui.
Il faut vraiment, c'est ça qui est l'essentiel. L'essentiel, quel outil qui est approprié à ce patient. Voilà. Maintenant, on va basculer droite, avant, gauche, en arrière. Okay. Bon, on va faire une grande respiration en ouvrant les bras. Et on relâche, on fait bien du
un fort, moi j'aime plutôt un fort, mais j'aimerais mieux, vous voyez, vous avez pas un thé Earl Grey bien oui, fort, voilà, ça c'est ce que je préfère.
Voilà le boost.
Et ben voilà, c'est ce qu'il me faut. Merci beaucoup, mademoiselle. N'écoutez jamais les personnes à côté. Vadraud Lambert. Il est apaisant, c'est dingue ça. Hein. Quand je rentre dans cet endroit, d'abord c'est une toute petite maison dans la salpêtrière, donc c'est un endroit très particulier, tout est blanc, c'est propre, c'est zen, tout est zen, les gens sont zen, sont... Enfin, c'est une ambiance déjà incroyable, et lui, je le vois, ça y est, je suis en paix avec moi-même.
Et c'est lui qui t'hypnotise ?
Ouais, alors c'est... je suis pas hypnotisée. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut pas. Mais les gens savent pas forcément ce que c'est l'hypnose, quoi. Parce qu'évidemment, la vision qu'on a pu en avoir, c'était toujours qu'on n'est pas là, mais c'est pas du tout ça.
Mais moi, il y a un truc qui me fascinait dans ce que tu me racontais, c'est comment t'apprenais à évacuer les douleurs. Tu disais, je les mets dans mes mains. Comment ça se passe
non,
exactement ?
C'est pas que je les mets dans mes mains. C'est-à-dire que je me mets moi-même en état d'hypnose, mais je suis tout à fait éveillée, hein, pour pas oublier qu'on est éveillé. Et on fait venir donc, enfin moi, je l'explique comme ça, hein, c'est ma manière simple de l'expliquer. J'ai toute l'énergie positive qui vient dans mes mains.
Donc beaucoup de chaleur, et avec cette chaleur d'énergie, si tu veux, qui sont dans mes mains, je peux calmer les douleurs. Imaginons, j'avais par exemple beaucoup de douleurs au ventre. Bon, quand j'ai des douleurs au ventre, je me mets en position pour me relaxer, etc. Et mon énergie vient dans mes mains. À ce moment-là, mes mains sont chaudes, je les positionne sur les endroits de douleur et ça me calme. Mais c'est lui qui m'apprend à me relaxer. C'est vraiment la sensation, et c'est rien qu'avec ses mots, ce ne sont que ses paroles. Il n'intervient pas.
Il ne te touche pas.
Non, il ne me touche pas.
C'est quoi les mots qu'il utilise pour te calmer?
C'est ça qui est le plus dingue encore. C'est que si tu veux, les mots, il va te dire. Et moi, je ne peux pas te le dire parce que ça n'a aucun sens si tu le sors du contexte. Je suis assise dans une chaise, très confortablement. Et lui, il me parle. Je ferme les yeux, il me parle. Il peut très bien me parler des choses extérieures, des bruits extérieurs, de manière à ce que j'arrive à me dégager de tout ça et que je me mette dans un endroit où je suis bien, que j'aime, etc. Et j'y suis. J'y suis vraiment. En fait, tu vois, c'est ça ce que j'arrive à faire comme travail. C'est que je me mets dans un endroit où j'ai envie d'être, où je suis complètement...
Qu'est-ce que tu as choisi comme endroit hier ?
Eh bien, hier, j'ai choisi mon petit rocher à Alicante, en bas de chez moi. Et j'étais face à la mer et j'y étais. Il est trop clair, ce thé. C'est pas des vrais thés, ça. Un thé Earl Grey, c'est pas de cette couleur-là, Marie.
Non.
Ah bon, bref.
Voilà, tu étais quelqu'un qui faisait très attention à ton corps ou pas du tout?
J'ai toujours, à faire attention, non, mais j'ai jamais eu besoin de faire de régime ou de choses comme ça. J'étais quand même plutôt favorisée. Mais j'ai toujours fait du sport. Mais comme ça, tu vois, jeune, aller courir, j'ai toujours fait des activités sportives, oui, jeune.
Ouais, mais en même temps, t'as quand même un régime qui est à peu près le régime qu'on peut déconseiller à tout le monde. C'est-à-dire, si on voulait dire, tu vois, tu manges pas des courgettes avec du curcuma... Enfin, tu fumes des clopes, tu bois du café à longueur de journée, tu manges...
Sans sel, quand même.
Ouais, sans sel, mais depuis qu'elle a le traitement. Mais sinon, dans l'ensemble, t'es quand même un démenti formel à toutes les règles d'hygiène de vie de la médecine.
C'est pas
ton truc. En ce moment, attends Marie, depuis que je suis en radiothérapie, je mange hyper bien, beaucoup mieux qu'avant. Non, mais par contre, la prise de conscience de son corps, l'écoute de son corps est primordiale. Tu peux pas, sur des maladies qui durent, qui sont comme ça, faut que tu analyses et faut que tu comprennes.
J'ai maintenant le sentiment que la maladie peut s'installer dans l'existence comme une sorte de métier.
Il sent bon, mais pour moi, c'est de l'eau, quoi.
Une activité régulière et prenante, qui laisse très peu de loisirs, mais qui vous fait rencontrer un tas de gens, apprendre de nouvelles disciplines et dans laquelle on gagne en expertise.
De kiné, qui est quand même une profession qui a été longtemps très très dépréciée, ouais. Et qui prend une telle importance. Ouais. Parce que c'est vrai, les kinés, c'était ceux qui avaient raté médecine, puis raté dentaire, puis raté je sais pas quoi.
Et les médecins demandent de plus en plus à ce qu'on soit aidé par les kinés, parce que c'est primordial pour reprendre des forces, d'avoir un kiné, tu peux pas seul.
Parce qu'avant, les maladies n'étaient pas chroniques, hein, tu vois, tu dégageais beaucoup plus vite. Hein. Voilà, maintenant, tu as des malades chroniques, ça peut durer extrêmement longtemps. Toi, tu t'installes dans quelque chose, tu y installes ton entourage parce que voilà. Et puis, médicalement, enfin, je pense que ça les oblige à gérer des choses, à prendre en charge des patients de la manière que tu décris, qui n'a absolument rien à voir. Hein. C'est-à-dire, à un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu maintiens des gens, tu les guéris. Autrefois, si tu veux, ils avaient le choix entre guérir ou pas guérir.
Exactement. Moi, j'ai été une génération qui a été très touchée par le sida. Donc, il y en a qui sont partis. Et par contre, ceux qui sont restés, ils sont toujours là. Or qu'on pensait qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient avoir des maladies, tu vois.
Ils ont eu des tas de maladies opportunistes, ils en ont eu plein.
Ils vivent bien, enfin, bien. Mais ils sont malades.
Et tout d'un coup, avant, je pense qu'on avait des sociétés où tu avais des malades dans les hôpitaux et des bien portants dans la rue. Maintenant, tu as des bien portants mélangés à des malades parce que voilà, les malades, ils peuvent pas être dans les hôpitaux, si tu veux. Ils ont une vie qui est pas une vie complètement normale, mais qui est pas une vie complètement anormale non plus. Au fond, il y a encore des gens qui meurent de cancer fulgurant, qui dégagent en 3 mois. Et c'est ça qui nous paraît complètement anormal.
Pour les médecins aujourd'hui de gérer tout ça aussi, c'est très 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 différent.
Je ne sais pas si vous vous souvenez que quand on était enfant, c'était un mot qu'on ne pouvait pas prononcer. Ouais. On ne le disait pas.
C'est comme ça qu'on a dit oncologie et plus cancérologie. C'était quand même pour faire moins peur aux gens, parce que les gens avaient tellement peur avec ce mot cancer.
Oh, tu veux pas boire ton thé ?
Oh non, il est vraiment trop immonde, je peux pas. Ça n'a pas de goût. Est-ce que tu reprendrais un petit café ?
Ouais, volontiers.
Faut qu'on s'occupe de ça. Quand est-ce qu'on s'occupera de cette histoire de Loa Leonetti, Marie ? Parce qu'il faut qu'on s'en occupe un peu vite.
Ça dépend avec qui il faut qu'on traite ça. Il faut qu'on soit ensemble avec Julien, il faut voir avec le personnel de l'hôpital ou il suffit d'être à trois et de remplir des papiers ?
En fait, comme j'ai pas trop eu le courage de le lire moi-même, mais bon, je sais lire, hein, je peux le lire, mais non, je crois que c'est à nous, enfin à moi, et entouré par, enfin aidé par les amis qui feront respecter donc mes droits, puisqu'il faut savoir que le problème de ma maladie, c'est que je peux perdre aussi l'usage de la voix, donc c'est important que quelqu'un puisse faire respecter mes droits et mes désirs, hein.
Oui, mais t'as pas aucune idée de comment ça peut se passer pratiquement là pour le moment.
Non, mais
je vais lire le doc.
Come closer, don't be shy. Stand beneath the rainy sky. The moon is over the rise. Think of me as a train goes by. Clear the tissues and brambles. Whisper, didn't he ramble? Now there's a bubble of me. Remember when you loved me.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et l'été de Lydie, un feuilleton de Marie Desplechin et Lydie Violet que nous avions diffusé pour cet épisode en tout cas et pour la première fois le 13 février 2014. Il faut remercier Marie-Séverine, Julien, Raphaël, Lambert, Wadreau et les services de soins palliatifs de la Pitié, Salle Pétrière, Sandrine Chaperon, c'est bien sûr l'attachée de production des Pieds sur Terre et dans quelques instants sur France Culture, restez avec nous car c'est Culture Musique, l'esprit des labels indépendants par Tristan Francoz. Bon après-midi à l'écoute de France Culture.